Si, Yvan, bonjour à tous. Je vous amène les salutations de l'Église en Angleterre, chez nous. J'espère que ça vous réjouit, savoir que les Anglais prient pour les Français. Je n'ai pas dit pour l'euro, hein, j'ai dit pour les Français. Voilà, comme on a une heure de... Nous, les Français, avons une heure d'avance sur les Anglais, puisque nous sommes un peuple prophétique, n'est-ce pas ? Donc eux, ils vont commencer un peu plus tard, mais ils prient pour nous là. J'ai une équipe de prière à la maison et ils sont en train de prier pour que cette matinée soit significative. Et ça devrait être le cas chaque fois qu'on vient dans la présence de Dieu. On devrait s'attendre à ce que Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire, pas vrai ? Il est le maître à changer l'ordinaire en extraordinaire. Il veut changer l'eau en vin ce matin. Ce matin, j'ai envie de parler d'un sujet qui est très connu et pourtant très peu compris. C'est le sujet de la foi. Et je me souviens avoir fait l'expérience, un de mes voyages, j'étais en Suède, dans une école biblique, à enseigner un groupe d'individus. Et je priais pour un couple, en fait, qui attendait, qui voulait absolument avoir un enfant. Et puis, ça ne venait pas, quoi. Et puis, donc, je priais. Et le Saint-Esprit met dans mon cœur, dans ma pensée, que ce qu'il manquait à ce couple, ce n'était pas la foi, mais ce qu'il leur manquait, c'était l'expérience. Et qu'une foi sans espérance est une foi qui est désespérée. C'est logique, hein ? Une foi sans espérance est une foi qui est désespérée. Alors, regardez dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Et puis, je vais vous emmener un petit peu, comme on dit ce matin, en voyage. Donc, tout le monde connaît bien cette épître. Hein, vous le lisez tous les matins, n'est-ce pas ? Oui. Et regardez ce que la Bible dit par rapport à la foi et à l'espérance. Et après, on va essayer de comprendre vraiment ce que ça veut dire. Verset premier, la foi est une façon de posséder. De posséder quoi ? Ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Donc, on répète, et en fait, si vous avez, on lit tous la même version, je crois. Est-ce qu'on pourrait lire ça tous ensemble ? D'accord ? La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Donc là, la Bible me dit très, très clairement que la foi toute seule n'est pas suffisante. Il faut qu'elle soit combinée, il faut qu'elle soit fusionnée avec l'espérance. Parce que sans l'espérance, ma foi est inefficace. Souvent, je dis... le gymnase de la foi, c'est l'espérance. L'espérance, c'est là, quand tu vas à la gym, tu sais, tu travailles tous tes muscles et c'est là où la foi agit. Mais ça veut dire quoi ? Je vais vous donner un exemple qui est très concret pour nous aider à comprendre ce que ça veut vraiment dire. Je me souviens, justement, avec Exo, d'une année, on était partis à Tahiti. Il y a pire hein, comme endroit. Hein. Et combien connaissent Tahiti ? Il y en a ici qui connaissent Tahiti ? Non ? C'est beau, hein ? Et donc, je suis parti sans ma femme. C'est pas ma faute, c'était comme ça. Hein. Il n'y avait pas assez d'argent pour payer tout le monde, donc je suis parti sans ma femme. Le problème, c'est quand on va dans ce type d'endroit, quand on rentre après, il faut faire très attention à ce qu'on dit, pour pas, comme on dit, remuer le couteau dans la plaie. Et moi, en bon mari, je lui ai dit, quand je suis rentré, on est resté 15 jours, et je lui ai dit, tu sais, Andy, ma femme s'appelle Andy, je lui ai dit, tu sais, c'est absolument magnifique. Les églises ont une louange qui est très, très, très propre à leur... leur culture, c'est très tribal, ils soufflent dans des coquillages, ils font des sons extraordinaires, et puis l'eau est verte, bleu-vert, tu nages avec les dauphins, et tout à coup j'ai réalisé en fait qu'elle n'était pas là, j'étais tout seul, et qu'il fallait que je fasse attention à ce que j'étais en train de dire, parce qu'elle était un petit peu jalouse, quoi. Hein ? Logique, n'est-ce pas ? Et puis, donc, pour essayer de me racheter, je lui dis, écoute, ma chérie, ne t'inquiète pas, un jour je t'emmènerai. C'est chouette quand même. Ouais. Mais vous savez ce qu'elle m'a répondu ? Elle m'a dit non, ne me dis rien, parce que si ça n'arrive pas, je vais être déçu. Alors je préfère pas y penser, je préfère oublier ça, et puis si tu le fais vraiment, si tu fais vraiment ce que tu as dit, et que ça arrive, c'est très bien. Mais si ça n'arrive pas, au moins je ne serai pas déçu. C'est logique, n'est-ce pas ? Le problème, c'est que ça, c'est une foi sans espérance. C'est une foi qui dit, je préfère pas y penser. Et quelquefois, de penser à quelque chose, d'espérer quelque chose que Dieu a promis quelquefois des années en arrière. Il y a des choses que Dieu pour lesquels Dieu fait des promesses d'une façon générale à son épouse, à son église, mais aussi à chacun d'entre nous, il a fait des promesses. Et quelquefois, quand ça tarde à venir, quand c'est difficile, on a tendance à dire « Ah, mais je préfère pas y penser, Seigneur. Si tu veux me le donner, tu me le donnes. » Et dans certaines situations, c'est juste de faire ça, parce que les gens, ils se torturent pour des choses qui ne sont pas nécessairement des choses qui sont initiées par l'Esprit de Dieu. C'est quelquefois leur propre passion, leur propre désir, leur propre envie. Ce n'est pas toujours une mauvaise chose, mais quelquefois, nos désirs ne sont pas forcément ceux de Dieu. Donc, dans certaines situations, c'est peut-être bien de pas trop penser à quelque chose qui est futile. Mais dans beaucoup de situations, Dieu a donné une promesse. Il t'a donné une promesse. Elle tarde à venir. Et ça fait mal d'attendre. Et c'est plus facile de dire, comme ma femme a dit, je préfère pas y penser. Comme ça, si ça vient, c'est tout bénéfice. Et si ça ne vient pas, je ne vais pas me torturer jour après jour. Et le problème, c'est que Dieu ne veut pas que nous ayons ce type de foi. Il ne veut pas que je vienne à lui en disant, tu sais, je sais que tu as promis quelque chose, mais je ne préfère pas y penser. Il me dit, non, j'ai besoin que tu travailles avec moi à cette chose-là. J'ai besoin que ta foi soit remplie de quoi ? D'espérance. Parce qu'une foi sans espérance est une foi qui est désespérée. Quand on dit je suis désespéré, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a perdu quoi ? L'espérance. Désespéré, j'ai plus d'espérance. Et Dieu ne veut pas que je vive comme ça. Il veut que je sois plein d'espérance, et en particulier à l'égard des promesses qu'il a faites. Et je vais vous raconter, enfin je ne vais pas vous raconter, la Bible nous raconte l'histoire d'une femme qui s'est retrouvée dans une situation où elle ne voulait plus espérer parce que son espérance lui faisait trop mal. Et le prophète, l'homme de Dieu, vient et Dieu ne veut pas que cette femme reste avec cette foi désespérée. Il veut construire en elle l'espérance, comme il veut construire en nous ce matin l'espérance. Tu as la foi, c'est bien, mais si ta foi n'est pas remplie d'espérance, si tu n'espères pas, si tu ne vois pas quelque chose, si tu ne pries pas pour cette chose-là, jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse, elle peut ne jamais s'accomplir. Et on va voir comment ce que Dieu s'arrange pour remettre l'espérance dans la vie de cette femme. Dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4, s'il vous plaît. 2 Rois 4. Et il s'agit du prophète Élisée, verset 8, 2, 4, 8. Et on va voir comment cette femme, elle a fait une collision en fait avec l'Esprit de Dieu, avec le prophète, avec la parole prophétique. Est-ce que ça a produit en elle ? Verset 8 dit ceci. Un jour, Élisée passait par le village de Sunem et une femme riche insista auprès de lui pour qu'il accepte de prendre un repas chez elle. Et dès lors, chaque fois qu'il passait par ce village, il s'arrêtait chez elle pour manger. Donc, un jour, elle l'invite à manger. Et puis après, il y a quelque chose, on va voir, chez cet homme qui l'intéresse. Et chaque fois qu'il passe, elle va lui dire, viens manger chez nous. Et puis cette femme va dire à son mari ceci. Je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Nous pourrions lui construire une petite chambre sur le toit, y mettre pour lui un lit, une table, une chaise et une lampe. Il pourra loger là quand il viendra chez nous. Cette femme, elle a compris quelque chose que nous avons besoin de comprendre. Elle a compris qu'il y a quelque chose dans cet homme qui est de Dieu, n'est-ce pas ? Elle a compris qu'il y a quelque chose de divin chez lui. La présence de Dieu est là. Et elle a l'intelligence de dire à son mari, en fait, si on décortique un peu ce qu'elle veut dire, elle dit ceci. Entre les lignes, elle dit, il y a la présence de Dieu. Elle ne dit pas, il me semble qu'elle dit, je sais, elle savait ça. C'était clair pour elle, dans son cœur, dans sa pensée. Je sais que cet homme est un homme de Dieu, est un saint homme de Dieu. Et elle veut cette présence, elle veut ce que cet homme a en lui. Cette présence de Dieu, elle la veut où, cette présence ? Chez elle. Elle va dire, on va construire une chambre avec une table, des chaises, une lampe et un lit. Elle avait aussi compris comment est-ce que cet homme-là captait, lui, pour lui, la présence de Dieu. Ce n'est pas par hasard. Elle ne va pas le demander à un âne pour qu'il se promène, pour qu'il se déplace. Non. Une table, une chaise, une lampe. C'est un homme qui étudiait. C'est un homme qui se consacrait à Dieu, en fait. Et elle veut cette présence. Elle veut cette présence en elle. Et puis, ce qui va se passer, c'est que ce qui se passe souvent aussi avec nous, c'est que cette présence-là, quand tu l'invites dans ta vie, elle commence à agir, n'est-ce pas? Et cet homme de Dieu, ce prophète, il va commencer à se mêler de choses qui ne le regardent pas, mais qui regardent Dieu. Et il va dire ceci au verset 11. Un jour, qu'Élisée passait par Sunem, il repassait par là, il alla donc se retirer dans la petite chambre haute, donc que cette femme lui a préparée, il y passe la nuit. Et il va dire à son serviteur Géasi, le serviteur dormait par terre, en fait, à côté, il va dire « Appelle cette Tsunamite ». Et Géasi l'appelle et elle vint se présenter devant lui. Élisée va dire à Géasi, « Dis-lui, tu t'es donné beaucoup de peine en faisant tout cela pour nous. Que pouvons-nous faire pour toi? Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée ?» Là, cette femme, elle a compris quelque chose, c'est que la présence de Dieu dans cet homme qu'elle veut chez elle, elle commence à être agissante. Cette présence de Dieu, elle ne la laisse pas dans l'état où elle est quand elle est arrivée. Elle commence à agir dans sa vie. Tu sais quoi? C'est la même chose pour chacun d'entre nous. Alors, je ne suggère pas qu'il faut que tu construises une chambre haute avec une table, une chaise, une lampe, un lit pour votre pasteur. Mais, encore que si cette idée vous en dit, faites-le, ce n'est pas un problème. Mais ce que je remarque souvent, en tout cas chez nous, on le voit, c'est qu'on a des amis, des chrétiens, dans notre famille, dans notre communauté, qui, à un moment, on commence à écouter des choses, commence à écouter des messages, et ils ont de plus en plus soif. Et donc, ils font un peu comme cette femme. La parole de Dieu est présente chez eux. Donc, ils écoutent un message. On a des sœurs qui... Donc, elles emmènent les enfants à l'école le matin. Après, elles rentrent, elles mettent un CD, un MP3, elles écoutent un message. Et puis, elles réalisent que de plus en plus, il y a une soif qui vient. Mais elles réalisent aussi que Dieu qui est accepté, qui est invité dans un foyer, dans un cœur, il commence à agir et commence à pousser nos barrières naturelles, n'est-ce pas? Et cette femme, elle commence à réaliser une chose, c'est que cette présence qu'elle a invitée chez elle va commencer à agir. Et cet homme de Dieu va commencer à mettre son nez dans des choses qu'elle n'a pas forcément envie de révéler. Et commence à lui dire, tu sais, tu as montré tout cet empressement, tu as été vraiment, vraiment très gentille, très accueillante. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Est-ce qu'on peut parler au roi? Elle va répondre quelque chose de très significatif. Elle va dire, non merci, je vis heureuse au milieu de mon peuple. Ça, c'est une façon, à l'époque en fait, très polie de dire à l'homme de Dieu, occupe-toi de tes affaires. J'ai besoin de rien. Je t'ai fait une chambre haute pour que tu viennes étudier, mais ne passe pas les barrières, tu sais. Quelquefois, quand des chrétiens viennent nous voir en disant, oh, Gabriel, j'aimerais bien que passer plus de temps avec toi, est-ce que tu peux venir me voir, est-ce que je peux venir te voir? Je dis, mais bien sûr, absolument. Et puis on commence à vraiment faire ça, à se voir, à prier les uns pour les autres. Et puis tout à coup, je commence à voir des choses, je commence à entendre des choses du Saint-Esprit qui me donne pour telle ou telle personne. Et puis ils me disent, oulala, attends, je voulais juste prendre un café avec toi, de temps en temps, là tu commences à mettre ton nez dans les trucs qui ne te regardent pas. C'est comme si on dit à Dieu, écoute, je veux bien que tu me sauves, mais va pas plus loin, quoi. Je suis bien comme ça. Mais le problème de cette femme, on va voir c'était quoi son problème. Élisée va demander au serviteur, verset 14, que pourrions-nous faire pour elle? Et Géasi, plein de révélations, va dire, hélas, elle n'a pas d'enfant et son mari est âgé. Donc elle n'a pas d'enfant et son mari est âgé. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas beaucoup d'espérance. Elle ne peut pas beaucoup espérer. Elle n'a pas d'enfant, son mari est vieux. Élisée lui dit, appelle-la. Géasi obéit, il l'appelle, elle vint se présenter sur le pas de la porte. C'est très intéressant, ce texte est truffé de symboles. Elle vient sur le pas de la porte. Alors, au-delà de tout le côté du respect de la femme qui ne rentre pas dans la chambre d'un homme, à l'époque, etc. Il y a aussi quelque chose de très symbolique. Cette femme, elle se tient devant le seuil de la porte, de sa porte spirituelle. Et elle sait très bien que si elle traverse ce seuil-là, elle va commencer à rentrer dans une dimension qui va l'amener au-delà de ce qu'elle a connu auparavant. Et c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Et malheureusement, on voit trop de chrétiens, de frères et de sœurs qui arrivent à ce stade où tout à coup, ils se retrouvent devant le seuil. Ils savent qu'ils peuvent soit continuer à vivre les choses comme ils le vivent tous les jours, et à venir le dimanche, et ils ont le salut, et ils iront au ciel. Ils seront dans la présence de Dieu. Soit ils peuvent franchir ce seuil, cette étape, ce seuil spirituel, symbolique, qui dit, Je veux plus de toi, Seigneur. Je veux rentrer dans toutes les choses que tu as pour moi. Nous sommes appelés, mes amis, à démontrer la puissance du royaume de Dieu dans cette société française. C'est vrai ou c'est faux? Parce que si c'est faux, on perd notre temps. Moi, le mien et vous, le vôtre. Moi, à vous parler et vous, à m'écouter. Mais ce n'est pas faux, c'est la vérité. Il est venu pour détruire les œuvres du malin. Il a été crucifié, il a livré les autorités, les dominations, il les a livrées en spectacle. Il a triomphé d'elles à la croix. Il nous a donné la puissance pour que nous puissions guérir les malades, pour que nous puissions chasser les démons. Il nous donne ce mandat d'aller et de faire des nations des disciples. Il nous donne cette puissance-là. Et beaucoup d'entre nous sommes à ce seuil. On peut continuer à vivre notre vie de chrétien. Beaucoup d'églises, de communautés sont à ce seuil. On peut continuer à rouler comme on roule. Tout va bien, on est dans le confort. On a des bonnes prédications. On a une bonne communion fraternelle. On est bien les uns avec les autres, on se connaît. L'église grandit, il y a plein de gens qui viennent, il y a plein de nouveaux. On baptise des gens ce soir, gloire à Dieu pour les baptiser. Chaque fois, je me réjouis quand je vois un baptême. Ça me rappelle le mien, cet engagement fantastique que tu fais pour Dieu. Mais je ne veux pas rester à ce seuil. Je veux aller au-delà et je veux vivre dans la dimension surnaturelle que Dieu a pour chacun d'entre nous. Je ne suis pas en train de proposer qu'on va tous commencer à planer comme des ballons dans le ciel. Je suis en train de dire que nous devons vivre dans cette dimension de la puissance de l'Esprit de Dieu. Elle se tient à la porte. Élisée, verset 16, lui dit, « L'an prochain, à la même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. » Waouh. Et regardez sa réaction qui en dit long sur ce qui est dans son cœur. Elle s'écrie, l'hébreu est très fort parce que l'hébreu dit qu'elle crie, c'est un cri de détresse. Elle va dire, « Mon Seigneur, homme de Dieu, ne me donne pas de faux espoirs, moi qui suis ta servante. » L'hébreu dit ceci, « Ne fais pas monter mon espérance. » C'est une femme qui a espéré pendant longtemps. Combien de fois les hommes, les gens qu'elle connaissait, les hommes de foi sont passés et lui ont dit, « Tu vas avoir un enfant, crois. » Et puis elle a attendu. Un mois a passé, après c'était l'autre, et après c'est l'autre. À chaque fois, elle a espéré. Et ça fait mal, n'est-ce pas, quand on espère quelque chose et que ça ne se passe pas? Pas vrai que ça fait mal? Ça, c'est complètement logique. La Bible dit que l'espoir différé, retenu, dévié, rend le cœur malade. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas espérer pour ne pas être malade. Ça veut dire que c'est un mécanisme d'espérer quelque chose qui ne se présente pas tout de suite. Ça nous fait du mal. C'est difficile, mais c'est nécessaire. Et cette femme, elle livre son cœur. Elle va dire à l'homme de Dieu, arrête, ne me trompe pas. Entre parenthèses, j'ai déjà entendu ça dans le passé. Vous savez, on n'a pas, avec mon épouse, je vous confie quelque chose de très personnel, mais en même temps, ça, si ça peut aider quelqu'un, on n'a pas d'enfant. Et on est allé voir les médecins, les spécialistes, et ils ont dit, il n'y a aucune raison, ça devrait marcher. Et pendant tout un certain nombre d'années, on a vécu dans cette dimension du « Ah, mais qu'est-ce qui va se passer ?» Et on avait le choix entre devenir très amer ou très frustré, comme vous avez entendu la semaine dernière. Parce que j'ai écouté la prédication la semaine dernière. J'essaie toujours d'écouter quand je vais quelque part pour la première fois. J'essaie d'écouter la dernière chose que les chrétiens ont entendue avant que j'arrive. C'est important, ça conditionne l'état dans lequel ils sont. Donc Anne est très frustrée, mais Anne a espéré jusqu'au bout. Elle s'est battue dans son espérance. Et on a eu des tas de gens qui sont venus nous voir en disant, on a envoyé ma femme en disant, je prophétise que tu auras un enfant l'an prochain. Et il faut faire attention à une chose. Ne surtout jamais en vouloir à des gens qui, finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que confondre l'empathie qu'ils ont pour toi, la compassion, le désir de te voir heureux ou heureuse. Et ils disent des choses qui sont leur émotion. On ne peut pas leur en vouloir, n'est-ce pas? Mais combien de fois on a entendu ça? Combien de fois, après trois jours de mission ou un culte ou une réunion, les gens sont venus nous voir? C'est pas quand même pas compliqué. Tu vois un couple et... Tu vois qu'ils ont plus 20 ans et tu vois qu'ils n'ont pas d'enfant. Ou les gens savent, ça se dit. Ah mais voilà, il me semble que Dieu m'a dit ce matin que vous allez avoir un enfant. On l'a entendu, mais des centaines de fois. Et cette femme crie à l'homme de Dieu, elle dit arrête, ne commençons pas ça. On ne va pas recommencer ce cycle de frustration, ce cycle d'attente, d'espérance et de voir l'espérance qui n'aboutit pas, ce cœur malade. J'en ai marre, je ne veux plus espérer. Et donc, elle avait une foi qui était désespérée, une foi qui n'avait plus d'espérance. Et Dieu ne veut pas la laisser comme ça. Et gloire à Dieu, il ne veut pas la laisser comme ça. Et ce qui se passe, c'est exactement ce que le prophète avait prophétisé. Au verset 17, non pas, il n'avait pas prophétisé ça au verset 17, mais verset 17 me dit ce qui était passé. Cependant, pourquoi cependant ? Malgré ce qu'elle pouvait penser ou dire, cette femme devint enceinte et l'année suivante, à la même époque, elle donna naissance à un fils exactement comme Élisée le lui avait prédit. Et là, j'imagine, et on verra dans le ciel, on parlera avec cette tsunamite, mais j'imagine cette tsunamite est allée voir son mari et qu'elle lui a dit, tu vois, je t'avais dit, pas s'inquiéter. Tu vois, je t'avais dit qu'il fallait arrêter de se prendre la tête, qu'il fallait arrêter de sans arrêt se torturer avec cette pensée. Je t'avais dit que si Dieu voulait le faire, il le fait. On n'a pas besoin de s'en occuper. Et Dieu entend et dit, ah oui ? Ok. Vous savez ce qui se passe ? L'enfant meurt. Alors attention, 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 attention. Flash, drapeau rouge, sonnette d'alarme. Je ne suis pas en train de dire que Dieu a tué l'enfant. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu a permis que l'enfant meure. Ce n'est pas pareil. N'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que Dieu est en train de reconstruire en elle l'espérance. Elle pense qu'elle est passée outre. Elle pense qu'elle a contourné la règle. Mais les principes du règne de Dieu sont incontournables. Verset 18. L'enfant grandit. Un jour qu'il était allé rejoindre son père auprès des moissonneurs, il cria soudain à son père, « Oh, ma tête ! Que j'ai mal à la tête !» Le père ordonna à son serviteur, « Emporte-le vite chez sa mère. » Typique, hein ? Va voir ta mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, qui le prit sur ses genoux. Et il resta jusqu'à midi, puis il mourut. Waouh ! Elle avait espéré pendant longtemps. Elle avait décidé de ne plus espérer. Elle avait pensé qu'enfin, en mettant cette espérance de côté, elle avait quand même reçu la promesse. Et là, l'enfant meurt. Elle monte dans la chambre du prophète. Elle le couche sur le lit de l'homme de Dieu, renferme la porte sur lui et sortit. C'est très intéressant ce qu'elle fait. Parce qu'elle ne va pas mettre l'enfant n'importe où. Elle va aller à la racine du problème. Elle va mettre l'enfant dans la chambre de l'homme de Dieu. Là, elle ne pense plus, est-ce qu'il faut que je rentre ou je ne rentre pas. Là, elle rentre. Elle rentre, elle met l'enfant sur le lit. Et écoutez-moi bien, c'est très important. Elle ferme la porte. Ferme la porte sur le problème. C'est un conseil que je peux te donner. Il y a certaines choses, il ne faut pas les partager à tout le monde. Si tu ouvres les fenêtres, pour prendre l'image biblique, si tu en parles à tout le monde, même des choses qui sont honorables, mais qui sont privées, qui sont des choses à toi, si tu en parles toujours à tout le monde, il ne faut pas t'étonner qu'il y ait une certaine confusion, parce qu'il y en a un qui va te donner un avis, l'autre va te donner un autre avis, l'autre un troisième, et puis tu vas arriver le dimanche matin, et tous les gens te regardent, et tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de penser ? Il y a un moment, il faut fermer la porte sur le problème pour le contenir et aller directement à la racine. Il a tellement bien compris ça que elle appelle son mari et écoutez ce qu'elle va lui dire. C'est invraisemblable. « Donne-moi, je te prie, l'un des jeunes serviteurs et une ânesse. Je vais vite aller chez l'homme de Dieu et je reviens aussitôt. » Et l'homme répond, il tombe des nues lui, « Pourquoi veux-tu aller chez lui aujourd'hui ?» lui demanda-t-il. « Ce n'est ni la nouvelle lune, ni un jour de sabbat. » Elle lui répondit, « Tout va bien. » Excusez-moi, est-ce qu'il y a un problème là ? Tout va bien ? Il y a un enfant qui est mort sur le lit de l'homme de Dieu et elle dit « Tout va bien ?» Il y a un problème de communication entre eux. Hein. Enfin, c'est pas mon thème, ce n'est pas le couple ce matin, mais il y a quand même un problème de communication très clair. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son jeune serviteur, « Conduis-moi rapidement, ne m'arrête pas en cours de route sans que je te l'ordonne. » Elle voyagea ainsi et parvint jusqu'au mont Carmel où habitait l'homme de Dieu. Quand celui-ci l'aperçut de loin, il dit à son serviteur Gehazi, « Regarde, c'est notre tsunamite, cours vite à sa rencontre et demande-lui, tout va-t-il bien pour toi ? Ton mari est-il en bonne santé ? L'enfant va-t-il bien ?» Elle va répondre, « Tout va bien !» Donc elle a répondu à son mari, « Tout va bien !» Elle répond au serviteur d'Élisée, « Tout va bien !» Pourquoi ? Parce que ce n'est pas eux le problème. Elle va directement à la source. Elle poursuivit jusqu'à l'homme de Dieu sur la montagne. Elle se jeta à ses pieds. Géasi s'approche pour l'écarter, mais Élisée lui dit, « Laisse-la faire, elle est profondément affligée, mais l'Éternel ne l'a pas fait savoir et ne m'en a pas révélé la cause. » Quand un prophète de l'Ancien Testament, du calibre d'Élisée, dit que Dieu ne lui a pas révélé quelque chose, c'est que ça craint vraiment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme si Dieu disait à Élisée, j'ai un problème avec elle, c'est pas toi. C'est entre moi et elle, c'est pas entre toi et entre nous et elle, c'est entre moi et elle. Même Élisée ne savait pas. Et puis quand elle va arriver, elle va ouvrir son cœur. Elle va s'écrier à Élisée, est-ce que j'ai demandé un fils à mon Seigneur? Ne t'avais-je pas dit, ne me donne pas de faux espoirs? Elle lui dit, pourquoi est-ce que tu es venu mettre le bazar dans ma vie? Et regardez le cheminement de cette femme. Elle voit un homme et elle sent qu'il est porteur de la présence de Dieu. Elle va dire à son mari, tu sais, cet homme qui vient manger quelquefois à la maison, il y a la présence de Dieu en lui. Je veux que cette présence de Dieu, elle rentre à la maison. Et à partir de là, il y a tout un tas de choses qui se déroulent. Et on pense que c'est négatif, mais c'est extrêmement positif parce que l'Éternel est en train de reconstruire sa foi. Vous savez, nous sommes appelés à être des disciples, pas seulement des individus qui sont sauvés. On a besoin de devenir des disciples. La foi est très, très importante aux yeux de Dieu. Ma foi est très importante. Élisée ordonna à Géasi, « Mets ta ceinture, prends mon bâton en main et va. Si tu rencontres quelqu'un en chemin, ne perds pas de temps à le saluer. Et si quelqu'un te salue, ne t'arrête pas pour lui répondre. » Quand tu arriveras dans la maison de cette femme, tu poseras mon bâton sur le visage du garçon. Et la mère de l'enfant s'écria, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je ne partirai pas sans toi. Ce que Élisée est en train de proposer, c'est que son serviteur y aille avec son bâton à lui, à Élisée, qui mette le bâton sur le visage de l'enfant pour que l'enfant revienne à la vie. La tsunamite, elle a compris quelque chose depuis le départ. Elle veut aller à la source du problème. Elle ne veut pas un substitut. Et ce qui est très marrant, c'est que, on va le voir après, le serviteur, il pense que son heure est arrivée. Il a fait ses 5 années d'école biblique ou d'école prophétique. Et là, il se dit, ça y est, c'est l'heure de mon ministère. J'ai le bâton de mon père spirituel, j'ai l'onction, je vais y aller. Et là, mon ministère va démarrer. Et il met le bâton sur le visage de l'enfant. Qu'est-ce qui se passe? Absolument rien. On va rigoler dans le ciel. Je veux voir ce DVD-là. Je veux voir la tête de Géasi quand il a mis le bâton sur le visage de l'enfant, qu'il n'y a rien qui s'est passé. Peut-être qu'il a dit, s'il te plaît, réveille-toi. Là, je joue mon ministère. Là, je joue ma crédibilité. Rien ne se passe. Et Élisée se lève et se mit en route avec elle. Géasi les avait devancés. Et donc, comme je dis, il avait posé le bâton sur le visage du petit garçon, mais rien ne s'était passé. Pas un son, pas une réaction. Il revint donc sur ses pas à la rencontre d'Élisée et lui annonça, je suppose qu'il ne devait vraiment pas avoir l'air fier, hein, que l'enfant n'était pas revenu à la vie, à lui. Quand Élisée arriva à la maison, le petit garçon était mort, étendu sur le lit. Élisée entra, ferma la porte sur eux deux et pria à l'Éternel. Il monta sur le lit et se plaça sur l'enfant. Il appliqua sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Et comme il restait ainsi étendu sur lui, le corps de l'enfant commença à se réchauffer. Le prophète se releva, marcha de long en large dans la chambre, puis s'étendit de nouveau sur l'enfant. Il y a un petit problème dans le texte, dans cette version-là, c'est que normalement, l'hébreu dit que Élisée remonte dans la chambre. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il est descendu, n'est-ce pas? S'il remonte, c'est qu'il est descendu. C'est logique ou pas? C'est très profond, ça, quand même. S'il remonte, c'est qu'il est descendu. Mais pourquoi c'est important? Parce que qui est-ce qui est en bas? Qui est-ce qui est en bas? Qui est-ce qui est allé avec lui? Le serviteur, oui, mais plus important, elle, la maman, elle est là. Et qu'est-ce qu'elle fait en bas? Hein? Vous savez ce qu'elle fait? Elle espère. Elle espère. Là, c'est plus le moment de dire, ah ben, si Dieu veut le ramener à la vie, il le ramène à la vie. On verra bien. Je ne vais pas m'en occuper, je ne vais pas me triturer l'esprit avec ça. Si Dieu veut le faire, il le fait. Non, 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 non. Là, ce n'est pas le moment de faire ça. Cette femme, elle est à genoux en bas et est en train de prier de toutes ses forces. Elle prie l'Éternel. Elle dit, Éternel, Éternel, que ta volonté se fasse. Ramène à la vie mon enfant. Je te prie. J'ai l'espoir. J'espère. J'ai la foi et l'espérance. Et c'est très intéressant parce que quand l'Éternel voit que cette femme a de nouveau reconstruit l'espérance en elle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ramener l'enfant à la vie. Et Élisée vient, elle dit à cette femme, voilà ton enfant. Vous avez vu comment Dieu a fait pour reconstruire l'espérance dans la vie de cette femme? L'espérance, c'est important pour nous, rapidement, parce que l'heure passe très vite. Un roi, le père spirituel d'Élisée, qui était donc Élie. Un roi 18:41. Après 3 années et demie de sécheresse, Élie va dire à Akab, « Allez, va manger et boire, car j'entends le grondement qui annonce l'averse. » Akab alla manger et boire, tandis qu'Élie montait vers le sommet du mont Carmel, où il se prosterna jusqu'à terre, le visage entre les genoux. Il dit à son serviteur, « Monte plus haut et regarde du côté de la mer. » Celui-ci monta, scruta l'horizon et revint dire, « Je ne vois rien. » Élie l'envoya 7 fois pour regarder. À la 7e fois, le serviteur annonça, « Je vois venir un petit nuage qui s'élève sur la mer, qui s'élève de la mer, pardon. Il n'est pas plus grand que la main d'un homme. » Alors Élie lui ordonna, « Va dire à Akab, dépêche-toi d'atteler ton char et rentre chez toi, sinon la pluie te bloquera. » Vous l'avez sûrement vu ce texte. Je crois que vous avez fait toute une étude sur Élie. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas logique dans le texte, qui n'est pas normal. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est qu'Élie entend le grondement de la pluie alors que le ciel il est bleu. Vous avez remarqué? Quand il envoie son serviteur, il l'envoie 7 fois. Quand il envoie son serviteur au début, il va dire ceci, j'entends un grondement. Le grondement, c'est la pluie. C'est ça qu'il dit, pas vrai? Oui ou non? Il dit ça. Comment est-ce qu'il peut entendre un grondement si le ciel est bleu? Moi, je connais l'endroit sur le mont Carmel. On y va régulièrement, au moins toutes les années. Et quand le ciel est bleu, même quand il y a des nuages, quand c'est l'été, il n'y a pas de pluie. Absolument pas de pluie. Mais là, le ciel était bleu. Il n'y avait pas un nuage. Il n'y avait rien. Et il entend le grondement de la pluie. Comment ça se fait? D'où ça vient ce son? Il a entendu ce grondement dans son esprit. Ça, c'est la promesse de Dieu. Et vous savez ce qu'il fait? La Bible dit qu'il s'agenouille et il met la tête entre ses genoux. Et ça, c'est très intéressant parce que c'était la posture, c'était la façon dont les femmes à l'époque donnaient naissance aux enfants. Comme ça, à genoux. Et elles poussaient. Ce que Élie est en train de faire, c'est très fort. Dieu lui a dit, va, parce que je vais envoyer la pluie. Après 3 ans et demi, va, je vais envoyer la pluie. Mais il ne lui dit pas quand. Il ne lui dit pas demain, après-demain. Et ce qui est en train de se passer, c'est que Élie a entendu la promesse, mais il amène cette promesse à l'existence. En priant, en donnant naissance symboliquement, en poussant pour donner naissance à cette promesse qui était dans le ciel, qui était dans les lieux célestes. Que ta volonté soit faite sur la terre comme où? Dans le ciel. Et la Bible dit aussi dans Romains qu'il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Pour lui, elles existent, pour nous, elles n'existent pas. Mais il veut que nous amenions à la vie ces promesses-là. Élie a compris, il sait que Dieu veut envoyer la pluie. Mais c'est Élie qui va décider le moment. Dans l'épître de Jacques, il est dit qu'Élie était un homme comme toi et moi. C'est très rassurant, n'est-ce pas? Parce que si lui peut le faire, ça veut dire que nous aussi pouvons le faire. Et qu'il a prié pour qu'il ne pleuve pas. Et ensuite, il a prié pour qu'il pleuve et il a plu. Élie enfante la promesse de Dieu. Il a compris, il a la foi, mais il a compris qu'il a besoin d'espérer. Et d'espérer, ça veut dire je vais prier. Et même si je sais que c'est difficile, même si je sais que ça ne vient pas, je vais continuer à prier jusqu'à ce que ça vienne. Alors, les gens me disent souvent, comment tu sais que c'est vraiment Dieu? L'épître Romain dit que Dieu, son espérance, elle ne déçoit jamais. Parce qu'il nous donne la foi par son esprit. Tu sais quand c'est Dieu. J'aimerais prier pour nous ce matin. J'ai terminé ce que je voulais dire, maintenant je vais mettre en application. Je voudrais que chacun d'entre nous puissions faire en sorte que cette parole s'incarne dans nos cœurs. Combien d'entre vous êtes là aujourd'hui et que tu as mis de côté quelque chose tu sais que c'est quelque chose que Dieu a dit. Dieu veut te donner. Peut-être que c'est un travail, peut-être que c'est une situation financière qui est difficile, peut-être que c'est un membre de la famille qui est parti, qui a laissé tomber le Seigneur, l'Église. Peut-être que c'est quelqu'un, un membre de la famille pour lequel tu pries depuis des années, tu pries pour sa conversion et tu dis « je ne vois rien » et que ça te fait souffrir. Peut-être que c'est un mari qui n'est pas converti, peut-être que c'est ton épouse qui n'est pas convertie. Et tu pries et peut-être que c'est un enfant que tu attends. Jeune couple, il y a peut-être un jeune couple ici, ça fait, vous avez essayé depuis très longtemps, il n'y a rien qui se passe. Et tu dis, je vais arrêter d'y penser parce que ça me torture. Alors, le but, ce n'est pas que tu sois torturé ce matin. Le but, c'est que tu comprennes que certaines fois, le Seigneur te dit, ne me donne pas ce fardeau, je te le redonne, je veux qu'on travaille ensemble pour qu'il s'accomplisse. Je veux qu'à genoux, tu puisses pousser pour que tu puisses enfanter la promesse de Dieu. J'ai besoin de ton intercession. J'ai besoin de ton espérance qui est comme le muscle de ta foi. Une foi sans espérance, c'est une foi qui est facile. C'est une foi qui dit, on verra bien, j'y pense pas. S'il me le donne, s'il me donne ce que je veux, c'est bien. Ça sera tout bénéfice. Je ne me serai pas torturé. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ou pas? Mais ce matin, Dieu veut construire ton espérance. Alors voilà, j'aimerais finir comme ça. Si le Saint-Esprit t'a parlé ce matin, je te demande de te lever là où tu es. Et puis on va prier. Personne ne va venir t'embêter, personne ne va faire quoi que ce soit. Mais lève-toi. Si tu as besoin que ton espérance puisse grandir. Si tu es dans la situation de cette femme qui a dit « Je ne veux plus espérer, ça fait trop mal. » C'est entre toi et Dieu. Regarde pas à droite, à gauche. Ce n'est pas honte. Au contraire. Et ce que je peux te garantir, c'est, je ne peux pas te garantir le moment où Dieu va le faire, mais ce que je peux te garantir, c'est que ce fardeau, cette chose qui t'a fait tellement mal pendant tellement d'années, que tu as préféré mettre de côté, si tu la reprends parce que c'est l'intention de Dieu, parce que c'est le mandat du Saint-Esprit pour ta vie ce matin, je peux te garantir une chose, c'est que ça te fera plus mal comme ça t'a fait mal à l'époque. Parce que tu collabores avec le Saint-Esprit. Parce que tu construis ta foi. Tu construis ton espérance. Donc, Seigneur, je te prie pour ceux qui sont levés ce matin. Pour ceux qui sont assis, qui n'osent pas se lever. Je prie, Seigneur Jésus, que par ton esprit, tu puisses faire grandir l'espérance. Pour ceux qui ont mis de côté des situations qui font mal, je prie, Seigneur, que tu nous donnes de comprendre, de réaliser que tu veux que nous travaillions avec toi. Et donc, nous prenons ensemble cette décision de reprendre ce fardeau et de le considérer comme notre fardeau, le tien et le nôtre. De collaborer avec toi, de prier, de pousser jusqu'à ce que la promesse soit enfantée. Jusqu'à ce que le bébé, jusqu'à ce que le rêve, jusqu'à ce que la promesse s'incarne, devienne chère. Toi qui appelles les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Nous voulons maintenant, par notre prière, par notre foi et notre espérance, amener à la vie les choses qui existent dans l'éternité, dans les lieux célestes. Nous les prenons et nous amenons à la vie. Tout comme Élie a prié pour que la pluie tombe, nous prions, Seigneur, pour que ta promesse, pas la nôtre, la tienne, se matérialise, pour qu'elle vienne à la vie, afin que toi et toi seul, tu sois honoré, que tu sois glorifié, et que la toute-puissance de Dieu soit manifestée dans chacune de nos vies. Seigneur, que nous soyons un témoignage. Seigneur, je prie que dans les jours, les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent, Seigneur, beaucoup se souviennent de ce matin comme le matin où tu as déclenché quelque chose dans les cœurs. Au nom de Jésus. Amen.
On peut tous se lever, on va rester debout. On va garder le message dans notre cœur. Je ne veux pas qu'on passe tout de suite à l'étape d'après. Quelques instants, si vous voulez bien. On ne met pas notre foi en nous-mêmes, on met notre foi dans ce Dieu extraordinaire. Et vous avez accès à une présence de Dieu auquel cette tsunami n'avait même pas accès. Vous avez accès à une connaissance de Dieu auquel elle n'avait pas accès. Vous avez accès à une personne de Jésus qu'elle ne connaissait pas, dont elle ne connaissait pas l'amour incroyable et sa volonté à lui faire du bien. À combien plus forte raison pour vous, Dieu est prêt à se mobiliser et à coopérer avec vous.
Accueillons par force de vivre. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes de vie, elles sont.
Ce message et que l'espérance, on la vive maintenant.